Bonjour. Les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN vont se retrouver à Vilnius la semaine prochaine, un moment charnière pour notre sécurité transatlantique. La guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine continue de se poursuivre depuis 500 jours. Moscou a semé la mort, la destruction au cœur de l'Europe, cherchant à détruire l'Ukraine et à diviser l'OTAN. Notre sommet enverra un message très clair. L'OTAN est unie et l'agression de la Russie n'aboutira pas. Lors du sommet, nous allons renforcer l'Ukraine lors de ce sommet et établir une vision pour son avenir. Je m'attends à ce que les alliés vont accepter un paquet avec trois éléments pour rapprocher l'Ukraine de l'OTAN. Tout d'abord, nous allons nous mettre d'accord sur un programme pluriannuel d'assistance pour faire en sorte que l'interopérabilité entre les forces armées et celles de l'OTAN puisse être effective. Deuxièmement, nous allons renforcer nos liens politiques en mettant en place le Conseil OTAN-Ukraine. Et troisièmement, je pense que les alliés vont réaffirmer que l'Ukraine va devenir un membre de l'OTAN et seront unis pour voir comment faire en sorte que l'Ukraine puisse atteindre cet objectif. Les alliés se sont déjà engagés à dépenser 500 millions d'euros pour des besoins critiques, le carburant, le matériel médical de déminage et de reconstruction des ponts. Nous allons aussi aider à renforcer le secteur de sécurité et de défense de l'OTAN, de l'Ukraine, y compris avec des hôpitaux militaires, et nous allons aider l'Ukraine à assurer la transition du matériel de l'époque soviétique vers les normes de l'OTAN. Le président Zelensky va nous rejoindre pour la réunion inaugurale du nouveau Conseil OTAN. Autant Ukraine. Il s'agira d'une plateforme pour consultation en temps de crise et aussi pour la prise de décision. Nous serons tous assis autour de la table en tant qu'égaux pour évoquer nos préoccupations communes en matière de sécurité. Au sommet, nous prendrons d'autres mesures importantes pour renforcer notre dissuasion et notre défense, avec trois nouveaux plans régionaux de défense pour répondre aux deux principales menaces qui frappent l'Alliance, la Russie et le terrorisme. Un plan pour le Nord, l'Atlantique et l'Europe arctique. Un plan pour le Centre qui couvre la région de la mer Baltique et l'Europe centrale. Et un plan pour le Sud pour la Méditerranée et la région de la mer Noire. Pour exécuter ces plans, l'OTAN met 300 000 forces en état de préparation et d'alerte à haut niveau, y compris des moyens importants de combat aérien et maritime. Je m'attends à ce que nos dirigeants donnent le feu vert au plan d'action sur la production pour la défense, pour coordonner notre demande, renforcer nos capacités et augmenter l'interopérabilité. Pour y parvenir, nous devons investir davantage. Au sommet, les alliés vont déterminer un objectif plus ambitieux en matière de dépenses de défense pour arriver à 2% du PIB par an consacré à la défense. Aujourd'hui, nous publions aujourd'hui des nouvelles estimation sur les dépenses de défense. En 2023, il y aura une augmentation de 8,3% parmi les alliés européens et le Canada. C'est la plus grande augmentation depuis des décennies et la neuvième année consécutive d'augmentation dans nos dépenses de défense. Donc, les alliés européens et le Canada auront investi plus de 450 milliards de dollars supplémentaires depuis que nous avons donné le feu vert à notre engagement en matière de défense, d'investissement de défense en 2014. Alors, seuls trois alliés allaient au-delà de 2% consacrés au PIB pour la défense. Cette année, il y en a 11 qui atteignent cet objectif, vont au-delà, et nous pensons que ce nombre va augmenter de façon substantielle l'année prochaine. Au sommet, nous serons rejoints par les dirigeants de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Japon et de la Corée du Sud, car notre sécurité n'est pas régionale, elle est globale. Donc, nous travaillons en étroite collaboration sur des questions sur la cybersécurité, la sécurité maritime et les nouvelles technologies. Nous allons aussi accueillir l'Union européenne à Vilnius. Notre partenariat avec l'Union européenne atteint un niveau sans précédent et nous sommes déterminés à faire encore plus ensemble. la Finlande participera pour la première fois à un sommet en tant qu'allié et je me réjouis que la Suède puisse nous rejoindre le plus rapidement possible. Hier, j'ai accueilli une réunion constructive de hauts dirigeants de la Turquie, de la Suède et de la Finlande. Et ensuite, je vais rencontrer le président Erdogan et le premier ministre Kristersson lundi après-midi à Vilnius. Depuis 75 ans, l'OTAN a été l'alliance la plus forte de l'histoire. Les décisions que nous allons prendre au sommet de Vilnius vont faire en sorte que nous allons continuer à protéger nos populations et nos valeurs. Sur ce, je suis prêt à répondre à vos questions.
Bonjour, Radio-Télévision lituanienne. Merci de me donner l'opportunité de poser une question. J'en ai deux. Première, l'Ukraine dit que la déclaration de Bucarest de 2008 est une erreur historique. Qu'en sera-t-il de la déclaration de Vilnius? En quoi est-ce que ce sera différent? En 2008, les dirigeants ont dit que l'Ukraine deviendrait un membre de l'OTAN. Il semblerait que vous allez répéter ce même message en 2023. Quelle sera donc la différence? Deuxième question. Avez-vous entendu le président Zelensky? Sera-t-il présent au sommet? Merci. Réponse. Alors, il y a bien des différences entre ces deux sommets. Tout d'abord, l'Ukraine s'est fortement rapprochée de l'OTAN. Les alliés de l'OTAN, en effet, ont travaillé en étroite coopération avec l'Ukraine pendant de nombreuses années, et tout particulièrement depuis 2014. Cela a permis de renforcer la coopération, l'interopérabilité aussi entre l'Ukraine et l'OTAN. Je m'attends à ce que les dirigeants à Vilnius se mettront d'accord aussi sur un paquet de mesures qui permettra de rapprocher d'autant plus l'Ukraine de l'OTAN. Ce sera fait en partie par la mise sur pied du Conseil OTAN-Ukraine, qui est une plateforme politique qui permettra de tenir des consultations de crise et de prendre des décisions ensemble, de renforcer là aussi notre coopération politique. Pour ce qui est du soutien concret, pratique, il y aura ce programme pluriannuel mais qui a une dimension politique très claire aussi. En effet, en acceptant de se tenir aux côtés de l'Ukraine et de les aider sur le long terme, de permettre une interopérabilité pleine et entière avec l'OTAN, nous aidons l'Ukraine, là aussi, à se rapprocher d'autant plus de l'OTAN et d'une adhésion à l'OTAN. Enfin, je suis confiant que nous trouverons une façon de traiter de la question spécifique de l'adhésion dans l'unité. Ceci dit, je ne rentrerai pas dans les détails de libellé éventuel dès maintenant, puisque c'est ce que nous annoncerons lorsque tout sera bien en place au sommet. En tout cas, je me réjouis d'accueillir le président Zelensky au sommet. Je serai heureux qu'il participe à la réunion inaugurale de ce Conseil OTAN Ukraine. ZDF, question. Merci beaucoup. Florian Neuhand, ZDF, Télévision allemande. Monsieur Stoltenberg, première question. Les États-Unis réfléchissent activement, disent-ils, à envoyer des missiles à sous-munitions à l'Ukraine qui sont interdits par plus de 150 États. Du point de vue militaire, pensez-vous que c'est une bonne idée? Est-ce que l'Ukraine a besoin de telles munitions? Et d'un point de vue politique, est-il sage d'envoyer des missiles, des munitions qui sont interdites pour de bonnes raisons? Réponse. L'OTAN, en tant qu'alliance, n'a pas de position sur la convention sur les missiles à sous-munitions. En effet, un certain nombre d'alliés ont signé cette convention, mais d'autres ne l'ont pas signée. C'est aux alliés individuels de prendre leurs décisions sur la livraison ou non d'armes et d'équipements militaires à l'Ukraine. C'est donc au gouvernement de prendre ce genre de décision, ce n'est pas à l'OTAN en tant qu'alliance de prendre ce type de décision. Nous faisons face à une guerre brutale. Nous devons garder à l'esprit que cette brutalité, nous la voyons dans le nombre de victimes. Elle tombe au quotidien. Ces armes à sous-munitions sont utilisées par les deux parties. La Russie les utilise dans leur guerre d'agression brutale pour envahir un autre pays. L'Ukraine, quant à elle, les utilise pour se défendre. la meilleure façon de mettre fin à cette guerre brutale est de faire en sorte que la Russie, le président Poutine, arrête d'attaquer un pays souverain. C'est ce qui mettra fin à la souffrance, aux victimes, à la mort, qui sont causées par différents types d'armes sur le champ de bataille au quotidien. Question de NTV. Monsieur le secrétaire général, NTV Turquie, la réunion d'hier avec la Finlande et la Suède a-t-elle permis de briser la glace entre la Turquie et la Suède? Vous avez dit que les échanges étaient constructifs, mais quand on voit la déclaration du ministre des Affaires étrangères turc et de son homologue suédois, on se rend compte qu'il y a encore un certain écart. Comment allez-vous pouvoir réduire cet écart d'ici lundi prochain? De plus, vous en appelez toujours à la Turquie, mais quelle est la pression que vous pouvez exercer sur la Suède pour que, d'une façon ou d'une autre, il puisse répondre aux préoccupations de la Turquie? Réponse. Des termes comme constructif, bon dialogue, c'est vraiment plus adapté que de parler de briser la glace. C'était une bonne réunion, c'était constructif et nous avons pu avancer. Je suis convaincue que ces avancées, se poursuivront. Il y a, c'est vrai, un écart qui reste à combler. C'est pour cette raison que j'ai invité le président Erdogan et le premier ministre Christensen à se réunir lundi, d'ici quelques jours, donc à Vilnius. Nous nous rencontrerons à trois, accompagnés de nos experts, pour que nous puissions nous pencher sur les détails, les préoccupations concrètes et sur les éventuelles différences entre les positions de la Suède et la Turquie. C'est de cette façon que nous pourrons surmonter les différences lorsqu'elles existent, comme c'est le cas à l'heure actuelle, avec la question de la ratification finale de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Le message que je souhaite faire passer, c'est que la Suède a répondu à cet engagement pris à Madrid dans le cadre du mémorandum trilatéral. Il y a autre chose qui est tout à fait claire à mes yeux. La Turquie a de véritables préoccupations de sécurité. C'est pour cette raison que nous nous réunissons pour traiter de ces questions. Nous savons aussi que les alliés de l'OTAN ont des préoccupations de sécurité liées au fait qu'ils souhaitent justement que la Suède rejoigne les rangs de l'OTAN le plus rapidement possible. C'est vrai pour les États baltes qui voient tout à fait un intérêt à voir la Suède rejoindre l'OTAN. Donc l'adhésion de la Suède sera bon pour la Suède, pour la région balte, la région nord et pour tous les alliés, y compris la Turquie, et ce le plus rapidement possible. Merci. Interfax Ukraine, question. Merci. Irène Assomor, agence de presse ukrainienne, Interfax Ukraine. J'ai une question sur la déclaration qui a été faite. Je comprends que vous ne pouvez pas parler du libellé qui sera inclus dans le communiqué de Vilnius sur l'adhésion de l'Ukraine, mais où en sont les alliés dans la rédaction de ce libellé qui concerne l'adhésion de l'Ukraine? Il faudra que ce libellé soit satisfaisant aussi pour Kiev. Réponse. Comme toujours, en amont d'un sommet de l'OTAN, nous nous consultons et nous travaillons sur un libellé exact. C'est ainsi que l'OTAN prend des décisions. Nous sommes 31 alliés et nous sommes en contact, bien entendu, avec l'Ukraine. Les alliés se consultent sur le libellé qui sera repris dans le communiqué. Je suis confiant que nous trouverons une voie à suivre dans l'unité. Nous nous mettrons d'accord sur la façon dont nous pourrons faire avancer l'Ukraine sur le chemin de l'adhésion à l'Alliance. Comme je vous le disais, je m'attends aussi à ce que des décisions soient prises au sommet quant à des mesures de soutien concrets, pratiques. Pour ce qui est des aspects politiques, ils y sont directement liés, puisque davantage d'interopérabilité, un programme pluriannuel pour l'interopérabilité entre les forces ukrainiennes et les forces de l'OTAN permet à l'Ukraine de se rapprocher de l'OTAN. Et les liens politiques plus forts, grâce au Conseil OTAN-Ukraine, est une façon là aussi de rapprocher davantage l'Ukraine et l'OTAN. Donc le libellé précis sera publié lorsque nous nous serons mis d'accord et lorsque la déclaration, le communiqué sera entériné par l'ensemble des dirigeants la semaine prochaine. Mais je suis confiant que nous pourrons faire passer un message clair et non seulement clair, mais plus important encore, gardons à l'esprit que les alliés se sont déjà mis d'accord sur bien des principes importants pour ce qui est de l'Ukraine et de son adhésion. Nous sommes toujours déjà mis d'accord sur le fait que la porte de l'OTAN était ouverte. Nous sommes mis d'accord pour dire que l'Ukraine allait devenir un membre de l'OTAN et c'est quand même un message important à faire passer. Nous sommes aussi mis d'accord pour dire que c'était aux alliés de l'OTAN et à l'Ukraine de décider quand l'heure était venue pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. La Russie n'a pas de veto et... Plus important, nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine, nous sommes tous d'accord sur ce point-là. Nous assisterons l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, puisque tant que l'Ukraine n'aura pas gagné cette guerre, l'adhésion de toute façon ne peut être discutée. C'est pour cette raison que les alliés renforcent leur soutien et fournissent ce soutien militaire à l'Ukraine.
Bloomberg.
Nathalie Adrich de Bloomberg, nous continuons d'entendre des demandes d'Ukraine pour auprès des alliés pour envoyer plus de moyens d'artillerie. Est-ce que vous êtes satisfait du niveau de livraison? Les alliés de l'OTAN ont envoyé et continuent d'envoyer un volume sans précédent de munitions de différents types et continuent de faire des annonces sur ces dons, tout cela est coordonné de façon tout à fait appropriée et c'est pour cela que les Ukrainiens ont pu reprendre des territoires dans le nord, au sud et à l'est et il y a quelques semaines, ils ont pu lancer leur offensive. Cette offensive avance et maintenant, les Ukrainiens peuvent libérer du territoire. Il y a évidemment un niveau de consommation très élevé de munitions au cours des opérations qui se poursuivent. Des milliers de munitions sont tirées tous les jours. Nous réapprovisionnons en permanence l'Ukraine avec des munitions et aussi des pièces détachées pour les différents systèmes d'artillerie, pour les véhicules blindés, les chars, la défense antiaérienne, etc. Et ces besoins vont continuer à exister et nous allons continuer à soutenir l'Ukraine et à renforcer notre détermination dans les pays de l'Alliance pour augmenter encore davantage notre soutien. Il me semble que c'était votre question. Non, vous parliez de la production. Oui, alors... Sur la production, ce que nous avons pu constater et que depuis que nous avons commencé à répondre aux besoins de renforcer notre capacité de production à l'automne dernier, les choses ont beaucoup évolué. Maintenant, de plus en plus d'alliés signent des contrats, car sans ces contrats avec l'industrie, la production ne peut pas augmenter. Nous avons eu des échanges avec le secteur industriel lors de la dernière réunion de mise à la défense. Nous avons aussi travaillé aussi sur un plan d'action sur la production pour la défense, qui sera sans doute agréé par les dirigeants à Vilnius pour coordonner la demande, pour voir comment nous pouvons avoir des acquisitions en commun pour réduire les coûts, faire des économies d'échelle. Cela fait longtemps à l'OTAN que nous avons ces acquisitions communes. Nous avons ici la NSPA, l'OTAN, qui facilite plusieurs projets en matière de munitions. Nous avons augmenté les directives en ce qui concerne les obus, notamment les obus dimension 155, qui est l'obus 155, qui est celui le plus communément utilisé par les Ukrainiens. Nous avons donc augmenté la demande des alliés pour ce type de munitions à destination de l'Ukraine et nous sommes en train de renforcer notre travail pour faire en sorte qu'il y ait une normalisation et les mêmes normes pour que ces munitions puissent être utilisées par la contrepartie ukrainienne. Nous utilisons différents moyens, outils pour faire en sorte que nous ayons la même approche, les mêmes normes et pour augmenter la production. Merci, la télévision grecque. Je vous en prie, madame. Télévision publique Athènes, monsieur le secrétaire général, vous avez dit à plusieurs reprises que les 2% du PIB consacrés à la défense et le plancher, non pas le plafond. Est-ce que les alliés sont plus près de parvenir à un accord sur cet objectif des 2%? La réponse est oui. Nous avons fait beaucoup de progrès en donnant le feu vert au nouvel engagement en matière de dépenses de défense et nous estimons désormais que les 2% du PIB pour la défense ne sont pas un plafond mais un plancher désormais. Nous avons aussi fait des progrès pour renforcer ce nouvel engagement en matière d'investissement de défense. Donc cela est démontré non seulement en parole et en acte. Et les nouveaux chiffres sur les investissements de défense dépenses de défense que nous avons publiés aujourd'hui pour 2023 sont encourageants, ils sont positifs. Il s'agit des plus grandes augmentations depuis des décennies. 8,3% d'augmentation parmi les alliés européens et au Canada en termes réels avec ajusté à l'inflation. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu à l'OTAN depuis des décennies à l'OTAN. Et cela démontre que les alliés de l'OTAN prennent tout cela très sérieusement. Car pour fournir un soutien à l'Ukraine, pour soutenir des contrats à long terme avec l'industrie de défense, pour regarnir nos stocks, pour investir dans des capacités au du spectre, il faut davantage de fonds. Et ces fonds supplémentaires sont maintenant mis à disposition. Et nous avons investi plus de 450 milliards de dollars depuis 2014. Et cette année, les augmentations atteignent 8,3%. Donc cela illustre que c'est quelque chose qui est pris très au sérieux par les alliés. Nous avons encore des progrès à faire et je pense que ces chiffres vont encore augmenter l'année prochaine. Cette année, 11 alliés vont atteindre les objectifs de 2%, ce qui est beaucoup plus que lorsque nous avons pris cet engagement en 2014. C'était un engagement sur 10 ans qui va donc arriver à terme en 2024. Donc l'année prochaine, nous pensons que plus d'alliés vont atteindre cet objectif de 2%. Et ensuite, nous pourrons aller de l'avant lorsque nous allons mettre d'accord sur un plan d'investissement à Vilnius. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pour revenir au soutien à l'Ukraine, deux questions. Première question sur le plan d'assistance globale. Vous avez dit que les alliés sont engagés à dépenser 500 millions d'euros. S'agit-il de dépenses sur un an? Et est-ce que les alliés se sont engagés à dépenser cette somme de façon pluriannuelle? Deuxième question concernant le rapprochement de l'Ukraine et l'OTAN. Concrètement, qu'est-ce que cela signifiera si ces exigences liées au MAP, le plan d'action global, n'étaient pas respectées? Nous sommes en train de finaliser le texte et les décisions sur ces deux questions. Donc, j'hésite à entrer dans trop de détails à ce sujet. Vous verrez tous les détails concernant les deux questions que vous avez posées dans quelques jours. Et je vais m'assurer de piloter ce processus et pour que nous puissions arriver à une position forte et unie sur ces questions. Et je me compliquerai la tâche si aujourd'hui, lors de cette conférence de presse, je rentrais dans trop de détails sur les différentes alternatives qui sont actuellement étudiées. Mais je peux vous dire que je suis confiant qu'au terme de ces consultations et que lorsque nous aurons ces décisions qui seront prêtes pour au sommet, vous verrez un engagement fort des alliés pour fournir un engagement substantiel dans la durée, un soutien économique à l'Ukraine par le biais à la fois de l'OTAN dans le cadre du paquet d'assistance globale, le CAP, notamment pour des besoins précis tels que le carburant et différents types d'équipements, mais aussi dans le cadre d'un programme pluriannuel pour faire en sorte que l'Ukraine puisse passer d'un équipement soviétique vers des normes et un équipement plus moderne et interopérable avec l'OTAN. Sur le plan d'action pour l'adhésion, le MAP, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avec tous les différents programmes que nous avons et avec la convocation, la réunion du Conseil OTAN-Ukraine et le programme pluriannuel pour l'interopérabilité, nous rapprochons l'Ukraine de l'OTAN et cela va nous aider également à progresser sur le fait d'envoyer un message positif en ce qui concerne l'adhésion de l'Ukraine.
Question. Merci, Mattia Bagnoni. Monsieur le secrétaire général, récemment, nous avons vu des signaux préoccupants émanant de la Russie et de l'Ukraine sur la centrale nucléaire de Zaporijjia. Est-ce qu'un accident de type Tchernobyl avec un nuage radioactif qui affecterait les pays de l'OTAN, est-ce que cela pourrait déclencher l'article 5 et est-ce que ce message a été envoyé à Moscou? Réponse. Avant toute chose, il est important de comprendre que par nature, les guerres sont dangereuses et imprévisibles. Bien entendu, nous suivons de très près la situation, et notamment la situation à proximité de la centrale de Zaporizhzhia. Nous saluons aussi tout à fait le fait que l'AIEA suive elle aussi de près la situation. Leurs experts, bien entendu, se penchent sur la question, et c'est important. En effet, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est la centrale nucléaire la plus importante d'Europe. L'AIEA a une responsabilité, un mandat, ce que nous appuyons. En effet, c'est ainsi que nous pouvons veiller à ce que les règles et les normes soient respectées. C'est un défi considérable en temps de guerre. La Russie a une responsabilité importante. Le meilleur message à envoyer de la part de l'OTAN et de la part de l'AIEA, c'est finalement que la Russie ne doit pas lancer d'attaque depuis la centrale nucléaire, ne doit pas l'attaquer, doit retirer ses forces de la centrale. C'est ce qui permettra aux experts de faire leur travail, de mieux le faire. Ils ont eu accès, ces experts, à la centrale. Ils ont pu en partie évaluer la situation. Ils ont indiqué n'avoir pas vu de signes de mine ou d'explosifs à ce stade. Cependant, ils ont demandé un accès plus poussé pour examiner la centrale et assurer sa sécurité et vérifier sa sécurité. Nous en appelons donc à la Russie de se retirer de l'installation et pour faire en sorte que les experts ukrainiens et internationaux aient pleinement accès à cette centrale. Nous échangeons avec l'AIEA, nous suivons la situation de très près, l'AIEA également, et nous en appelons à la Russie de retirer ses troupes. Question, agence de presse ukrainienne. Bonjour, merci de prendre ma question. Est-ce que des garanties de sécurité seront abordées à l'ordre ou seront à l'ordre du jour à Vilnius pour ce qui est de la question de l'adhésion? L'Ukraine et les membres de l'Alliance ont décidé que la question de l'adhésion pourrait être examinée à la fin de la guerre. N'est-ce pas une incitation à la Russie de continuer à mener cette guerre? La meilleure garantie de sécurité ne serait-ce pas pour l'Ukraine justement d'avoir une adhésion garantie à l'OTAN? La chose la plus importante, c'est de faire en sorte que l'Ukraine soit victorieuse et que le président Poutine, la Russie, ne gagne pas cette guerre. Le plus urgent, c'est donc le soutien militaire à l'Ukraine. Plus l'Ukraine arrive à libérer de terrain, plus ils auront de pouvoir à la table des négociations pour parvenir à une paix durable et juste. Lorsque la guerre aura pris fin, il sera important, bien entendu, d'avoir les cadres nécessaires pour veiller à ce que la Russie, le président Poutine, non seulement retire ses forces, mais aussi qu'il ne soit pas en mesure de rééquiper ses forces pour relancer une guerre. Il faut des cadres pour assurer une paix durable. C'est ainsi que nous pourrons fournir à l'Ukraine ce dont ils ont besoin pour faire en sorte que la Russie n'envisage pas de nouvelles attaques. Et c'est de ça que discutent les alliés. Lorsqu'on discute de l'adhésion à l'OTAN, on aborde cette question. Et encore une fois, je suis tout à fait confiant sur le fait que nous pourrons trouver une voie à suivre pour ce qui est de la demande d'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine. Je m'attends à ce que des décisions concrètes soient prises en matière d'interopérabilité et sur d'autres sujets qui aideront l'Ukraine à se rapprocher de l'OTAN. C'est bien connu, ça a été annoncé par plusieurs alliés. Il y a des échanges aussi en bilatéral et voire des échanges multilatéraux avec l'Ukraine sur différentes modalités de sécurité, arrangements de sécurité. Je salue ces efforts. Nous en sommes informés. Ces efforts viendront compléter, sous-tendre les efforts faits par l'OTAN en tant qu'alliance. Le message est le suivant. Nos décisions sont prises en tant que pays souverain avec l'Ukraine. Ce n'est pas à la Russie de prendre ses décisions ou d'imposer un quelconque veto. Nous aidons l'Ukraine à gagner cette guerre en fournissant un soutien militaire et nous continuerons à le faire. Bien. Reuters. Andrew Gree, Reuters. Monsieur le secrétaire général, pourriez-vous nous parler davantage du Conseil OTAN-Ukraine? Pourriez-vous expliquer ça un petit peu concrètement pour le commun des mortels? Quels seraient les pouvoirs d'un tel conseil? Est-ce que l'Ukraine pourrait demander à ce que ce conseil se réunisse? Est-ce que ce serait une enceinte pour le partage de renseignements, par exemple? Réponse. Le Conseil OTAN-Ukraine sera un conseil qui rassemblera les 31 alliés de l'OTAN, 32 prochainement avec la Suède, nous l'espérons, mais pour l'instant 31 alliés de l'OTAN et l'Ukraine. Ils seront réunis sur un pied d'égalité dans ce conseil. Et ensemble, nous allons mettre d'accord sur les modalités, comme on les appelle, sur la façon dont ce conseil se réunira et à quelle fréquence. Cependant, je pense que nous nous mettrons d'accord sur des modalités qui permettront aussi à ce que des membres individuels du Conseil, y compris donc bien sûr l'Ukraine, puissent demander à ce que ce Conseil se réunisse pour des consultations de crise, comme on appelle cela. S'ils se sentent menacés, par exemple, ou s'ils pensent que des consultations urgentes sont nécessaires, alors ils peuvent tout à fait faire la demande, invoquer ce mécanisme de consultation de crise entre alliés de l'OTAN et Ukraine. Un autre point, le Conseil peut aussi prendre des décisions. Et c'est au Conseil de décider quelles décisions il peut prendre. Mais cela ouvre la porte à des activités conjointes plus concrètes. Ça ouvre la porte aussi à la création de sous-comités pour gérer des tâches particulières. Pour parler, par exemple, de cyber ou, je ne sais pas, d'interopérabilité. Ce sera au Conseil d'en décider, bien entendu. Ils pourront se mettre d'accord aussi sur un programme de travail. Donc, par la mise sur pied du Conseil, nous mettons sur pied un organe qui permet à l'OTAN et à l'Ukraine de faire des choses ensemble, de se consulter sur des questions d'importance pour notre sécurité. Encore une fois, cela rapproche l'Ukraine de l'OTAN et cela fournit à l'Ukraine et ça fournit à nous tous un outil que nous pouvons utiliser pour faire davantage ensemble et pour renforcer la coopération et les liens entre l'Ukraine et les différents alliés de l'OTAN. Cela rapprochera donc l'Ukraine de l'OTAN. Ce sera bien pour l'Ukraine et ce sera bien pour l'OTAN. Et la réunion inaugurale aura lieu donc la semaine prochaine à Vilnius. Deutsche Welle, question. Bonjour. Je reviens sur la question des armes à sous-munitions. L'Allemagne a déjà dit qu'il proposait de les envoyer à l'Ukraine. D'après ce que nous avons compris, ça pourrait aider l'Ukraine à avancer dans leur contre-offensive. Ceci dit, si les États-Unis décident d'envoyer ces armes, dans ce cas-là, le risque ne serait-il pas que l'unité de l'OTAN soit remise en question ? Réponse. C'est aux alliés individuels de prendre des décisions sur le type d'armes à envoyer. Tous les alliés sont d'accord pour dire qu'il faut envoyer des armes et des munitions à l'Ukraine. Et d'ailleurs, les alliés envoient une quantité sans précédent de soutien militaire à l'Ukraine. C'est vrai pour l'Allemagne, mais c'est vrai pour bien d'autres alliés. Ils envoient différentes munitions, différentes armes à l'Ukraine. Pour ce qui est de ces munitions particulières, là, il y a une différence entre alliés. Certains alliés, en effet, ont signé la convention sur les armes à sous-munitions et n'en disposent pas. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas les fournir à l'Ukraine. D'autres alliés n'ont pas signé cette convention. Certains d'entre eux disposent donc de ces munitions. C'est assez allié individuel de prendre ces décisions. L'OTAN, en tant qu'alliance, n'a pas de position sur la convention, tout simplement parce qu'il y a différents avis, différentes positions sur cette convention. Et idem sur la possession ou non de ces munitions. Alors, les armes à sous-munitions ne sont ou sont déjà utilisées dans le cadre de la guerre en Ukraine par les deux parties. La différence, c'est que la Russie utilise ces armes pour attaquer l'Ukraine, pour envahir l'Ukraine. L'Ukraine, quant à elle, utilise ces armes pour se défendre face à une agression. L'ensemble des alliés, qu'ils aient ou non signé la convention que je citais, sont d'accord pour dire que nous devons offrir un soutien militaire à l'Ukraine. C'est ce que nous faisons, y compris l'Allemagne. Après, quel type d'armes, quel type de munitions ? Cela varie d'un allié à un autre et ça ne changera pas.
Nous avons le temps pour une dernière question de la télévision de la Géorgie. Je vous en prie. Télévision géorgienne, est-ce que à Vilnius, il y aura des messages à destination de la Géorgie sur sa demande d'adhésion à l'Ukraine, à l'OTAN par exemple? Notre message depuis l'OTAN et a été réitéré lors du sommet précédent que nous devons renforcer notre partenariat, nos relations avec nos partenaires qui sont vulnérables face aux ingérences de la Russie, qui subissent la pression de la Russie. Et au sommet, les alliés vont réitérer le soutien à l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Géorgie dans le cadre de ses frontières internationalement reconnues. Les alliés vont réaffirmer le droit de la Géorgie à décider de son propre avenir, de sa politique étrangère, libre de toute pression extérieure. Donc nous exhortons la Russie à retirer ses forces, les forces qu'elle a déployées en Géorgie, sans l'accord du gouvernement géorgien, et d'arrêter son occupation et la militarisation de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Nous devons aussi reconnaître l'importance que joue la Géorgie pour renforcer le partenariat entre l'OTAN et la Géorgie et aussi l'importance de son engagement en faveur de la sécurité euro-atlantique. Nous parlerons aussi d'autres partenaires que l'Ukraine. Alors évidemment, l'Ukraine sera une de nos priorités, évidemment, en raison de la guerre à grande échelle qui se déroule dans ce pays, mais nous parlerons aussi du renforcement de nos relations avec des partenaires, notamment la Géorgie. Merci beaucoup. Une question hors micro. Alors, une question sur le Conseil. Alors, vraiment, une dernière question. Le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Ilona. Alors, sur le Conseil OTAN-Ukraine, dans le passé, la Hongrie a bloqué la convocation de la Commission OTAN Ukraine. Est-ce que vous pensez que la Hongrie ou d'autres alliés ont le droit de bloquer de telles réunions? Est-ce que vous pensez que est-ce équitable d'avoir un Conseil OTAN Ukraine alors que le Conseil OTAN Russie existe encore? Le fait de mettre en place le Conseil OTAN Ukraine a été approuvé par tous les alliés, y compris la Hongrie, car nous prenons les décisions à l'unanimité à l'OTAN. Ensuite, nous avons les modalités qui nous permettent de convoquer cette réunion. Et je pense qu'une fois que nous aurons cette première réunion, il y en aura d'autres à l'avenir. Merci beaucoup. Ceci conclut notre conférence de presse.